Vous écoutez RTL.
RTL.
Ah, tu tournes là déjà?
Oui.
Salut YouTube.
Salut YouTube. Comment ça va?
C'est bien ça.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, j'accueille Fabien Olicard sur ma chaîne. Alors, Fabien Olicard, qui est-ce? C'est un mentaliste. Comme ça qu'on le décrit.
Bah ouais, c'est ça. C'est
plus simplement.
Très bonne définition.
Jusqu'à 22h.
Voilà. Bravo. Fabien Olicard, c'est un mentaliste qui est également humoriste puisqu'il a un spectacle.
Ouais.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mieux utiliser les pouvoirs de notre cerveau, c'est ce que l'on recherche tous. Notre invité a des astuces pour nous y aider. Bonsoir à Fabien Olicard.
Bonsoir.
Soyez bienvenue.
Bienvenue, très heureux de vous accueillir. Vous êtes donc mentaliste, on vient de l'entendre dans l'extrait de la mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur. Vous avez aussi une chaîne YouTube, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oh, et depuis le 1er janvier 2016, je me suis mis à faire des vidéos. Mmh. Et je m'étais donné pour défi de faire une vidéo par jour pendant un an, en 2016. Comme je suis pas malin, j'ai fait ça en 2016, c'était bisextile, comme ça j'en avais une de plus à faire. Mais ça m'a...
Tenez le rythme.
Ah ouais, ouais. Mais ça m'a éclaté parce que ça m'a permis pour une fois d'aborder tous les sujets qui me passionnent. Et je continue puisque j'en fais une dizaine par mois encore aujourd'hui.
C'est quoi un mentaliste? C'est un métier? C'est un amusement? C'est du divertissement? C'est un don?
Alors,
tout ça à la fois docteur, c'est quoi?
Eh ben c'est hyper intéressant. Déjà, il n'y a pas de définition dans le monde, en Europe, en France. Du coup, de fait, chaque mentaliste a sa propre définition. Qui est forcément vrai puisque c'est la sienne.
Donc alors c'est quoi votre vraie définition?
C'est ça. La vôtre, c'est quoi?
Alors, la mienne, c'est que le mentalisme, c'est une espèce de curiosité accrue pour savoir comment fonctionnent les choses, mais surtout comment fonctionnent les gens, pour dans le but soit de déduire ce que pensent les gens, d'influencer des choix, et surtout de mieux se comprendre soi-même pour pouvoir s'optimiser un petit peu. Et en dernière étape, effectivement, pour moi, c'est un outil de divertissement. On peut s'amuser avec le mentalisme.
Est-ce que c'est un outil aussi pour manipuler les autres et se manipuler soi-même?
Oui, mais de manière positive. Alors que ce mot a toujours une connotation négative, en fait, c'est toujours très intéressant. On se manipule à longueur de temps, de toute manière. Mais si on le maîtrise un peu dans le positif, c'est chouette.
Fabien Olicard, vous utilisez quelle technique? Il y a de la psychologie, de la prestidigitation, de la mnémotechnie. Oh là là, déjà rien qu'à dire ces mots.
C'est vrai, la mnémotechnie. Oui, alors la mnémotechnie, parce qu'il y a plein de choses à retenir. Et puis en plus, on est tous dotés d'une excellente mémoire, la prestidigitation comme le détournement d'attention, ce genre de choses, savoir capter une attention pour la mettre à un endroit très précis, c'est intéressant, le calcul très rapide, la psychologie, l'art de la déduction, le cold reading, en fait je mets
c'est quoi le cold reading?
C'est littéralement la lecture à froid, mais vous connaissez un de ses représentants qui était Sherlock Holmes, même si c'était un personnage fictif.
On en parlera tout à l'heure de ça.
C'est ça.
Ouais. Alors il y a effectivement toutes ces techniques et vous les avez regroupées dans un livre qui est à la fois ludique et passionnant. Votre cerveau est extraordinaire, 50 astuces de mentalisme qui vont vous changer la vie, c'est publié chez First. Alors on va jouer ensemble, on va découvrir certaines de ces astuces. Par exemple, pour mémoriser le prénom de tous vos interlocuteurs, même quand ils sont très nombreux. Je crois que vous utilisez ça notamment sur scène. Comment vous faites dans vos spectacles?
Alors sur scène, dans la vie quotidienne, c'est devenu un réflexe, mais ça peut devenir votre réflexe, même à vous qui écoutez. Il suffit déjà de prêter l'attention quelques secondes, chose qu'on ne fait pas forcément. On dit comment tu t'appelles, on répète bêtement. On n'a pas fait attention.
Et on n'écoute pas surtout.
Et on n'écoute pas réellement, donc il faut prêter ces deux secondes d'attention. Répéter le prénom pour faire une boucle phonétique, ça repasse par l'oreille. Et surtout, jouer avec le visage de la personne. C'est-à-dire que, par exemple, Sidonie, quand je vous ai regardé tout à l'heure, quand on s'est présenté, j'ai pensé à moi, Sidonie, mon image, c'est une oie qui s'appelait Sidonie. Alors, c'est pas contre vous, mais je vous imagine avec cette oie.
Et du coup, ne vous inquiétez pas, moi, on me surnomme Aglaé, du coup.
Ben voilà, c'est ça. Mais c'est très efficace. C'est très efficace. Dès que je vous regarde, je vois l'oie, donc je pense à Sidonie et je ne peux pas oublier ça.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait deux choses à retenir.
Alors ça, c'est ce que vous croyez.
Une oie et un prénom.
C'est ce que vous croyez, alors qu'en fait, dans vos métadonnées, dans votre cerveau, Sidonie existe déjà, l'oie existe déjà. Je viens juste de créer un chemin qui n'existait pas entre les deux, mais je n'ai pas à retenir de nouvelles informations.
Génial.
Donc ça, c'est le début des techniques. Il y en a d'autres. On peut aussi faire jouer son imaginaire. Quand vous dites ça, Sidonie, c'est une oie, vous pouvez même aller plus loin. Si vous voulez mémoriser, vous pouvez la placer dans un lieu, dans une situation.
Fais pas n'importe quoi avec moi, attention.
Pour la différencier d'une autre Sidonie.
Ah oui, alors là, je peux utiliser par exemple la technique du palais mental.
Ouais.
Donc le palais mental, c'est je visualise un lieu que je connais par cœur. Donc ça peut être tout bêtement ma chambre ou ma maison ou un lieu que j'ai créé de toutes pièces mentalement.
Mm-hmm.
Et dans ce lieu-là, je vais ranger des informations. Je vais ranger des choses, je vais organiser mon cerveau.
Vous la rangez où, la Sidonie oie, alors?
Alors, la Sidonie oie, par exemple, je pourrais décider sur l'image d'RTL, de vous placer devant les studios d'RTL du 22 rue Bayard, de voir Sidonie avec son oie, et comme ça, à chaque fois que je vois votre visage, je vois l'oie, mais en plus, en fond, j'ai RTL. Donc, je récupère mon contexte. Et je peux me servir d'un mini palais mental avec RTL. Par exemple, le bureau, l'escalier, tourner à gauche et déposer plein de personnes que j'ai rencontrées ici.
Vous êtes d'accord pour nous aider à construire ce palais mental? On commence
par
quoi?
Alors, Alors, on commence basiquement par utiliser quelque chose qu'on connaît par cœur, très bien. Ce qui est très efficace, c'est sa chambre à coucher. Ou encore plus efficace, la maison de son enfance, si on a grandi longtemps dans la même maison, parce que là, les souvenirs sont très précis. Ce qui est génial, c'est que parfois, on croit ne plus s'en souvenir, et le fait de se faire ce travail-là, on se souvient de tous les détails de la maison. Et ce qui est important dans un palais mental, c'est de créer un circuit, un trajet. Donc, on va décider, par exemple, de rentrer par la porte, là, je prends l'exemple de la chambre, et de faire le tour dans le sens horaire, donc de la gauche vers la droite. Et dans ce tour-là, on va repérer des endroits très précis, par exemple l'armoire, la table de nuit, le lit, peut-être une autre armoire, peut-être un meuble qui traîne, etc., un porte-manteau.
Le coffre à jouets.
Le coffre à jouets. Et plus tard, quand on aura des informations à ranger, on les rangera dans ce que j'appelle ces spots-là, ces endroits clairement identifiés. Par exemple, si dans ma journée, je voulais encore une fois me rappeler de qui j'ai rencontré dans l'ordre où je les ai rencontrés, je vais mettre Sidonie à mon premier endroit, l'armoire. Alors, je vous range dans l'armoire avec mon noix, par exemple. Ce qui fait que plus tard, dans 3 jours, tu me diras, t'as rencontré qui chez RTL ? Je fais, alors dans l'ordre, j'ai rencontré. Et en fait, d'ailleurs, mon armoire était déjà prise par Gérard, qui est le producteur de l'émission, parce que c'est lui que j'ai rencontré en premier. Donc je range Gérard.
Je ne partage pas Gérald mon placard Chalon. Avec Gérald et mon noir.
Gérald Chalon.
Chacun son.
Donc ça, c'est. Ça,
son
c'est
endroit.
Ok, donc moi, je me vois bien utiliser ça. D'ailleurs, j'ai 10 coffres à jouer parce que je visualisais la.
Ah oui,
la
super. Bien sûr.
Et donc ensuite, on peut l'utiliser pour tout. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis nul pour mémoriser la liste des courses. Est-ce que je peux utiliser ce palais mental pour mettre ma liste de courses?
Alors c'est encore plus simple, parce que comme votre palais mental, c'est un lieu que vous connaissez déjà par cœur, il n'y a pas d'effort à faire. Vous savez que vous allez faire le tour dans un sens précis, il n'y a pas d'effort à faire. Ce que vous devez acheter, c'est visualisable. Ce sont toujours des choses, il n'y a pas d'effort à faire. Donc vous allez juste faire le tour de votre chambre mentalement, prendre ce petit temps-là pour vous, et mettre au premier endroit que vous allez visualiser des bananes. Par exemple, si vous devez acheter des bananes, vous n'êtes pas obligé d'acheter des bananes, ok, que ce soit bien clair.
Mais vous n'êtes pas en train de m'hypnotiser, là.
Alors, 10 paquets de bananes. Donc, vous mettez le premier achat à faire dans l'armoire. Ouais. Après, le deuxième, par exemple, sur la table de nuit. Le troisième sur le lit, etc.
Non, mais attendez, si déjà on n'arrive pas à se souvenir de la liste des courses, il faut se souvenir où on les a posées dans notre palais mental.
Non,
on devient dingue.
C'est ça qui est génial, c'est que quand vous allez repasser dans votre palais mental, elles vont s'imposer à vous, les images.
Parce qu'on les a imprimées.
Exactement. Fait. Le fait de les visualiser une petite seconde, en fait, votre cerveau, il s'en fiche que ce soit un souvenir vrai ou créé. Ah. Vous l'avez vu et il va le retenir. Il va le retenir jusqu'à moyen terme, on va dire. Et si en plus vous faites quelque chose de rigolo avec ces images, il retient encore mieux. Si je mets des œufs sur le lit, je ne vais pas poser la boîte d'œufs sur le lit. Je vais les éclater dans ma tête sur les draps et je vais voir ces œufs qui sont à moitié écrasés. Et ça, je vais encore m'en souvenir plus facilement.
C'est génial.
C'est cette technique. En fait, elle est très ancienne. C'est
très, très,
découvert
très,
dans votre,
très ancienne,
dans votre livre. Ça date
sûr.
De quand?
Alors, nous, on sait que les Grecs s'en servaient. On a aussi des traces à l'époque des pharaons, c'est-à-dire à la construction des pyramides, hein, pas à l'époque moderne. Donc, en moins 3000 avant Jésus-Christ, on utilisait déjà ce genre de choses. Ouais. Parce qu'à l'époque, on apprenait à apprendre. Il n'y avait pas de support pour déposer de l'information comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on note, on a un smartphone, un crayon, un papier, c'est facile. À l'époque, c'était de la transmission orale. On organisait ça. C'est presque dommage qu'aujourd'hui, on n'ait plus en primaire une heure de cours pour apprendre à apprendre.
Bien sûr.
Et on a encore des traces dans notre langage courant de ce genre de choses. Pour le palais mental, c'est grâce ou à cause du palais mental, qu'on appelait la méthode des Loki avant, que quand je vous explique quelque chose, je vous dis alors, en premier lieu, il y a. Parce qu'on parlait vraiment d'un lieu, lieu mental à l'époque. Alors, en premier lieu, j'ai mis, en deuxième lieu, j'ai mis, et c'est resté dans le langage courant encore aujourd'hui.
Bon voilà, ça fait partie des exercices qu'on peut faire en lisant votre livre. Votre cerveau est extraordinaire. Merci, c'est vraiment sympa de dire ça de mon cerveau. Ça marche pour vous aussi, si vous lisez le titre, vous vous sentez concerné.
Ah bah oui,
vous voyez
mais j'ai cru que ce livre était
déjà une technique,
bon,
ça.
Mais...
C'est déjà une technique pour que le lecteur ait envie d'acheter le livre.
C'est le positivisme.
Alors, en vrai, c'est que j'ai cette passion pour la transmission parce que je sais à quel point tout le monde est capable de faire ce que je fais. Et donc, je suis passionné par ça parce que je me dis, mais faites-le. À la fin du livre, j'ai dit, ou au début, je m'en souviens même plus d'ailleurs. Attends, je fais le tour, voilà, c'est au début. Au début du livre, je dis... Pour qu'une de ces astuces fonctionne, il suffit de s'en servir. Mais c'est vrai, c'est aussi bête que ça. Il suffit de s'en servir.
Allez, tiens, un autre exemple dans un instant sur RTL. On va utiliser des moyens mnémotechniques. Vous voulez différencier bâbord et tribord ou savoir si l'Arctique, c'est au sud, l'Antarctique au nord ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, on va vous y aider. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité. Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Votre cerveau est extraordinaire, oui, mais comment le muscler? C'est ce que nous propose notre invité, le mentaliste Fabien Olicard. On va apprendre maintenant avec vous quelques techniques de mnémotechnie. Et vous nous allez d'abord, évidemment, nous rappeler le sens de ce mot, l'étymologie de ce mot.
Ah, mnémo, bah, en fait, ce sont des techniques pour la mémoire.
Tout simplement.
C'est aussi bêtement que ça. Et c'est bien mnémo et non pas mémo.
Oui. Ah, il faut prononcer le N.
Oui. Et il faut surtout l'écrire.
Oui, ça c'est sûr.
Ce qui est très drôle, c'est que je reçois des emails me disant « il y a une faute à cette page, il n'y a pas de N ». C'est extrêmement drôle.
C'est drôle. Alors par exemple, pour le changement d'heure, comment savoir si on recule sa montre ou si on l'avance? Ça, on a toujours des conversations passionnées dans la rédaction des Curieux.
Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si cette technique existait ou pas avant. Je suppose que oui, peut-être. Mais en tout cas, j'ai réinventé la poudre parce que quand j'étais petit, avec ma mère, on se demandait souvent ça. Et j'avais remarqué que vers le mois d'avril, on avance. Et que vers octobre, on recule. Donc voilà, il suffit de savoir si on est vers avril ou vers octobre et on sait si on avance ou on recule.
Ça y est, c'est retenu.
Ben voilà, c'est retenu. Alors, ici, dans la curiosité sur RTL, on reçoit souvent des aventuriers qui se sont baladés au pôle Nord et au pôle Sud. Et ça nous est déjà arrivé d'être un peu perdu entre Arctique et Antarctique. Comment vous faites pour savoir si l'Arctique et l'Antarctique sont au nord ou au sud?
Alors moi, j'ai une technique qui est très simple, qui fonctionne avec le poids. J'imagine que je mets l'Arctique et l'Antarctique dans une baignoire. Ouais. Et l'Antarctique, comme il y a beaucoup de lettres, il est plus lourd, donc il coule. Il coule et il va en bas. Et du coup, je sais que l'Antarctique est au sud.
Ah, génial, merci. Ça
alors, qu'est-ce qu'on fait avec les stalactites et les stalagmites?
Alors ça, je me demande si ces mots, ils n'ont pas été créés pour nous arranger. Ouais. Parce que la seule différence, c'est le M et le T. Et stalagmite a le M de monte. Ah. Et stalactite a le T de tombe. Moi, je crois que ça a été fait exprès.
C'est sûr.
Et on n'a pas voulu nous le dire.
Votre cerveau est extraordinaire, c'est publié aux éditions First. Et vous nous donnez un truc pour apprendre par cœur et dans l'ordre les noms des présidents de la 5e République. C'est une phrase, c'est ça?
Ah oui. Oui, alors on peut faire des phrases comme ça. Alors là, c'est douce patrie gauloise mélangeant chat solitaire hargneux. Alors là, c'est la phrase que je me suis faite, chacun peut faire la sienne, mais moi, ce que je sais, c'est que la première lettre de chaque mot, c'est la lettre d'un président dans l'ordre. Donc,
Donc, il manque un Macron, hein, il manque un M, ah, si vous avez fini par Arnieux.
il manque donc, douce patrie gauloise, le D de Gaulle pour douce, le P de Pompidou, ouais. Gauloise, c'est Giscard, mélangeant pour d'accord. Mitterrand, etc., ouais. etc., jusqu'à Hollande, que j'ai rajouté, mais j'ai pas encore mis Macron.
Alors, pour ceux qui vont aller faire, peut-être, qui auront la chance de faire du bateau cet été, ou qui font du bateau dans l'année, comment on différencie bâbord de tribord, histoire de ne pas aborder du mauvais côté et pas se retrouver à la flotte?
Alors moi, je retiens batterie. Le mot batterie, mais que j'écris comme à la base comme une batterie d'instrument, mais ouais. Je l'écris B-A-T-R-I, batterie. Et quand je visualise le mot batterie, le bas de batterie est à gauche et le tri de tribord est à droite.
Mais
batterie.
La vie est si simple grâce à vous.
Oui, mais elle est somme tout court. Il faut trouver de quoi s'amuser avec et après c'est bon.
Ouais. Fabien Olicard, vous faites aussi de la scène. Hein. Vous avez un one-man show. Je crois que vous avez fait une centaine de dates là depuis 6 mois.
J'ai lancé mon troisième spectacle sous forme de rodage. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire 100 représentations du moins durant 6 mois de janvier à juin pour créer de toutes pièces le nouveau spectacle. Donc la première date, c'était l'ancien. Et la dernière qui a eu lieu vendredi dernier, c'était la version définitive, le nouveau.
C'est un spectacle interactif, ça se passe comment? Vous mettez le public à rude épreuve?
Alors pas rude épreuve, en fait on est vraiment là pour se marrer tous ensemble durant 1h40, voilà, c'est la forme d'un one man show, on se marre autour d'une passion qui est le mentalisme. Je vais transmettre des choses, mais c'est pas une conférence non plus.
Vous les hypnotisez ou pas?
Pas du tout.
Ah, il n'y a pas d'hypnose?
Il n'y a pas d'hypnose, je parle de l'hypnose par exemple sur scène, je parle de l'induction, de la suggestion, mais je les hypnotise pas. Et puis durant tout le spectacle aussi j'essaye de les bluffer, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vous explique quelque chose que je peux pas faire mieux et d'encore plus bluffant. Voilà. Et les personnes participent, toute la salle participe même.
Fabien Olicard, vous parlez beaucoup avec vos mains, et d'ailleurs je les regarde beaucoup, j'ai l'impression d'apprendre et que ça appuie un peu vos propos. Ça, c'est une technique de mentaliste ou c'est votre technique à vous?
Alors, c'est ce qu'on appelle les illustrants quand on parle, il y en a qui en ont plus ou moins. Moi, j'illustre beaucoup parce que je mets de mon côté toutes les chances que vous reteniez ce que je dis. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de mémoriser quoi que ce soit, mais je vais faire en sorte que vous reteniez un maximum de choses.
Bon, donc il faut nous regarder sur rtl.fr pour pouvoir profiter de,
des gestes de Fabien Olicard. On parlait du théâtre, de la scène. On aime bien dans cette émission sur RTL découvrir l'origine de certaines expressions. Et c'est vrai qu'au théâtre, on entend souvent côté cour et côté jardin. Vous l'expliquez dans votre livre, l'origine de cette expression.
Ah, je l'explique.
Ça vient d'où? L'époque de Molière, c'est ça?
Oui, exactement. Oui, c'était par rapport au roi, en fait. D'un côté, il y avait la cour du roi et de l'autre côté, il y avait les jardins, en fait, du palais. Et lui, Molière, s'était rendu compte que c'était une galère, en fait, de dire au comédien, tu rentres à gauche. Oui, mais à gauche, par rapport à qui? Si je suis sur scène ou par rapport au public? Donc, il avait trouvé cette astuce. D'un côté, il y a la cour du roi et de l'autre côté, les jardins. Et là, peu importe comment on se positionnait sur scène, on se souvenait de cour et jardin. Aujourd'hui, sur scène, il y a un moyen très simple. C'est que le comédien, quand il est sur scène, le cœur est du côté de la cour. Voilà, on peut cœur, dire. Voilà. Et si on est côté public, on pense à Jésus-Christ, JC. J à gauche, c'est les jardins quand on est public, et cour à droite.
Ah oui.
Alors, dans votre livre, il y a des conseils très utiles, on y reviendra tout à l'heure, entretien d'embauche, etc. Mais il y a surtout, c'est le plus important, c'est page 53, comment gagner au Shifumi. Vous avez 30 secondes pour nous dire comment gagner au Shifumi.
Il faut peut-être rappeler ce que c'est, le Shifumi, rapidement.
C'est un jeu pierre, feuille, ciseaux.
Pierre, feuille, ciseaux, exactement. Il n'y a pas le puits. Alors, ce serait un peu compliqué à expliquer à la radio parce qu'on va s'en mêler, mais il y a eu des études qui ont été faites par l'université de Zhejiang où on a vu qu'il y avait un schéma qui se profilait. En fait, quand une personne gagne, elle a tendance à garder la même figure au prochain coup. Et quand elle perd, elle a tendance à changer dans le cycle pierre-feuille-ciseau, Shifumi. Donc, en fait, si vous venez de perdre contre quelqu'un, vous savez qu'il va réutiliser le même coup. Donc, jouez le coup qui vous aurait fait gagner au coup d'avant.
Ah,
voilà, il y a deux chances sur trois que ça vous fasse gagner.
Je vais vous battre,
exactement.
Thomas, au Shifumi,
on va y jouer. En tout cas, si vous voulez réussir à l'entretien d'embauche ou alors mener une bonne négociation, tiens, pour revendre votre voiture, restez avec nous. On vous donne des bons conseils. Ce sera juste après les infos sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. L'intuition, le magnétisme, la télépathie. Et si c'était vrai?
La curiosité est un vilain défaut.
Vous êtes quoi? Clairvoyant, extralucide? Vous avez des pouvoirs?
Non, pas de pouvoir. Autrefois, oui.
Jusqu'à 22h.
Sincèrement, mesdames et messieurs, que l'on soit croyant ou sceptique, est-ce que l'on n'a pas tous, un jour, rencontré dans notre vie l'inexplicable?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On booste les performances de notre cerveau grâce à notre invité, le mentaliste Fabien Olicard. Et alors, on aime bien tenir nos promesses. Juste avant le rappel de l'actu avec Alexandre de Saint-Aignan, on disait, on va préparer un entretien d'embauche. D'abord, est-ce que vous avez appliqué vous-même les conseils que vous donnez dans votre livre?
Oui, j'ai même raconté ça pour le coup dans une vidéo où pour accompagner une amie qui stressée pour un entretien d'embauche, j'avais décidé de le passer en même temps qu'elle aussi. C'était un grand recrutement de masse, oui, de groupe, pour décrocher le job que j'ai refusé parce que je cherchais pas de travail à cette époque. Mais je sais déjà que les techniques que je reverse ici dans le livre fonctionnaient.
Cette vidéo, pardon, je vous interromps, parce que c'est drôle, il faut raconter l'anecdote, elle a été beaucoup vue et pas par n'importe qui.
Ah oui, elle a été diffusée par les Pôle emploi de France, par plusieurs... Alors ça, c'est drôle. J'apprends ça, je reçois des photos, des témoignages. Il y a des Pôle emploi qui ont passé ça, comme il y a des profs de maths qui passent des vidéos que je fais sur les mathématiques ou sur la mémoire, et récemment aussi des profs de communication qui passent des vidéos sur la manière dont je parle aux gens pour en extraire un suc de communication utilisable. C'est assez rigolo.
C'est bien votre talent de transmission, Fabien Olicard. Alors, premier conseil de bon sens pour réussir un entretien d'embauche, c'est se renseigner sur l'entreprise.
Exactement, se renseigner et surtout mémoriser les informations qu'on glane. Ça sert à rien de connaître toute l'histoire par cœur, mais les moments clés, quelles sont les valeurs du coup de cette entreprise, qui l'a créée, pourquoi il l'a créée, quelles ont été les grands changements. Vous pouvez mettre ces informations dans votre palais mental sous forme d'images, ça c'est toujours possible.
À côté des bananes,
des studios de RTL, de tout ce que vous voulez, de Gérard qui est toujours caché dans le placard, mais il a des bananes maintenant, c'est génial.
Et c'est toujours Gérald. Hein.
Attention,
pour un mentaliste, vous avez pas
on m'a jamais bien
Gérald,
prononcé votre prénom, mais maintenant je vais vous mettre des ailes dans le dos, j'oublierai jamais.
Génial.
C'est ça qui est pratique, c'est instantané.
Joli,
hein.
Joli.
Et alors, une fois qu'on s'est renseigné sur l'entreprise, il faut se détendre. Évidemment, avant de rentrer, de se mettre dans ce qu'on appelle un sourire intérieur.
Facile à dire, hein.
On va même se forcer à sourire au départ quand on est tout seul. Et au bout d'un moment, en fait, les muscles vont mentir au cerveau et on va se trouver plus détendu. Mm-hmm. Et une fois qu'on parle avec son interlocuteur, on va être, par exemple, attentif à ses signes d'ennui.
Ah est-ce bon, qu'il s'ennuie ou pas? C'est possible de voir ça, oui. Ah bah oui.
C'est quoi exactement le signe de... Alors, donc, moi, j'imagine, je suis en train de passer un entretien d'embauche avec le big boss de RTL.
Oh non, moi, j'en
ça
rêve.
Me rappelle des souvenirs. Ouais. Et d'un seul coup, comment je peux détecter qu'il s'ennuie? Parce que ce que je lui raconte est boring.
Il y a un moment, vous savez, suivi, il est parti, vous étiez tout seul.
C'est ça. Ça, c'est un bon indice, Sidonie.
Non, c'est pas sympa, ça.
Mais dans l'action de partir, il y a quoi?
J'aurais pu dire, Sidonie est en train de faire son entretien, voilà, vous voyez, je me sacrifie. Comme c'est comme ça que je suis récompensé.
Non, mais c'est intéressant, moi, ça me fait rire ce que vous avez dit, Sidonie, parce que quand on va partir, parce qu'on s'ennuie, on fait quoi? On se redresse sur sa chaise dans l'action de partir. Eh bien, inconsciemment, on fait ça. Déjà, on recule, on se redresse, on va au fond de sa chaise, on croise parfois les bras, on crée une distance avec ce qui est en train d'être dit.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si votre interlocuteur
change de sujet? On change
thème.
Tout de suite de thème, même d'accord. Si on était en train de répondre spécifiquement au thème qu'il avait demandé. Ah oui. Ne vous mettez pas vous-même dans l'embarras par rapport social induit. Oui. Changez, décidez de changer jusqu'à temps que ça matche, et vous allez voir que ça va matcher quand il va être très intéressé, voire passionné. S'il est passionné, il va même commencer à se mettre un petit peu plus près de la table, les coudes sur la table, à pencher le corps vers vous, à s'approcher de vous. Et vous allez le voir aussi dans ses attitudes et dans ses relances.
Bon, moralité, vous avez été embauché, pas votre copine, c'est ça?
Si, elle a eu le job. Aussi.
Elle a eu le job grâce à vos conseils. Ouais.
Alors, il y a une autre situation qu'on a tous vécue, c'est la fameuse négociation. Alors, on imagine que je veux vendre ma voiture. Tout ça, c'est une question de pouvoir.
C'est une question de pouvoir, mais c'est aussi une question de justice. Une bonne négociation, c'est une négociation où les deux parties repartent satisfaites. Ah. Sincèrement satisfaites. Donc ça, c'est le premier point. Pour être satisfait, il faut savoir jusqu'à où on est prêt de descendre ou pas. Est-ce que c'est non négociable? Est-ce que c'est négociable? Est-ce que si vous mettez votre voiture à vendre 4 500 €, est-ce que vous êtes d'accord pour descendre à 4 000, à 3 500, à 3 000, ou est-ce que votre limite basse? Il faut aussi déterminer ça. Et dites-vous que la personne en face, elle aussi, en temps normal, elle a ses propres limite. Donc, la vraie négociation, c'est la recherche du compromis. Ça, il faut le prendre en compte. Et il faut être aussi prêt, du coup, à laisser tomber si on est en dehors de ce cadre-là.
Il faut savoir dire non.
Il faut savoir dire non, exactement. Il faut savoir dire non, là, je ne suis pas d'accord. Et du coup, rater sa vente ou rater son achat, suivant de quel côté on est. Et ce n'est pas si grave. Parce que la vraie négociation, si on se met à négocier, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une limite. Sinon, c'était même pas la peine de commencer si c'est pour au final revenir à son point de départ.
On est toujours en train de penser à des négociations diverses dans nos carrières.
Et vous dites qu'il faut préparer des jokers quand on a une négociation. Ça veut dire quoi?
Alors, préparer des jokers, c'est par exemple une carte qu'on n'avait pas encore sortie. Oui. C'est-à-dire, si moi, par exemple, j'ai acheté une télévision dans un magasin, et puis je sais que je veux la faire baisser de 20%, par exemple. Alors, j'ai peut-être commencé déjà, moi, à vouloir faire semblant de la baisser à 30%. Comme ça, je vais faire semblant de lâcher à un moment donné. Ouais. Et puis, je ne voulais pas de la livraison parce qu'elle est à 8 €, par exemple. Mais peut-être que ça, c'est un joker que je me suis préparé. Je me suis préparé à lui dire à un moment donné, « Ok, je vous prends la livraison parce que je sais qu'il y a une commission dessus. » Voilà, il faut préparer aussi de quoi donner. On vient pas que prendre quand on négocie.
C'est les fameux leviers de négociation,
exactement,
c'est ça?
C'est les leviers de négoce, ouais.
Alors, on vient d'apprendre à passer un entretien d'embauche, on vient d'apprendre à négocier. Est-ce que vous pouvez nous aider à détecter un menteur?
Ah oui, alors il n'y a pas une technique sûre à 100% pour détecter le mensonge, ça je préfère le dire tout de suite, même les machines n'en sont pas capables. Par contre, scientifiquement parlant, on sait des choses qui sont souvent avérées. Et si toutes ces choses se réunissent, alors il y a de fortes chances qu'on ait un menteur. Par exemple, on va casser une légende urbaine. On dit toujours quelqu'un qui regarde droit dans les yeux, c'est quelqu'un de franc. C'est
oui,
pas vrai.
Alors que si je fuis votre regard, c'est que j'ai quelque chose à cacher. C'est
alors,
pas vrai.
Donc. En général, quand on discute, on a plutôt le regard qui décroche, qui revient, etc. Un menteur va plutôt avoir le regard fixe parce que d'une part, il n'a pas besoin d'aller chercher dans ses souvenirs, mais d'autre part, il a besoin de voir si vous êtes en train de gober le mensonge. Donc il va capter un peu votre attention, il va voir si vous êtes en train de le croire ou pas. Un regard fixe, c'est un signe de mensonge.
Et vous n'avez pas un regard fixe, vous. C'est vrai que vous passez de l'un à l'autre.
Eh oui,
et
c'est
vous cherchez
ça,
un peu
exactement.
Dans votre esprit.
Quand tu mens, ça doit lui arriver.
Mais
aussi,
du coup, comme je sais comment faut mentir,
on ne s'en sort pas.
Malgré soi.
Donc ça, c'est une.
C'est l'une des clés.
Vous proposez une solution pour piéger un menteur.
Oui, c'est de lui laisser raconter son histoire en entier, si vous avez un doute, et à la fin de cette histoire, peut-être pas aussi brutalement que ce que je vais vous dire, mais demandez-lui de la raconter à l'envers, dans une chronologie inversée. Donc de la fin au début, déjà avec la vérité, c'est assez dur à faire, mais alors quand on ment, de raconter à l'envers qui plus est, avec autant de détails que la première fois et de se rappeler quand est-ce qu'on a mis ces détails, c'est impossible, c'est de l'ordre de l'impossible.
À utiliser avec nos enfants, c'est pas mal ça.
C'est pas mal.
La même à l'envers, rose. Ma chérie. Ouais, ment pas, 2 ans et demi, on ment pas encore. Bon, oui. Fabien Olicard, dans votre livre Votre cerveau extraordinaire, qui est publié chez First Edition, vous nous proposez aussi de booster notre créativité, j'adore ça. Et le premier conseil, c'est quoi? De noter par exemple toutes nos idées, quelles qu'elles soient?
Oui, alors.
Sans trier.
Moi je vais dire, voilà, le premier conseil, conseil, c'est arrêtons de juger nos débuts d'idées. Ce sont des embryons d'idées, c'est des débuts, c'est des brouillons. Donc notez tout, tout ce qui vous vient, notez-le, ayez un carnet. Arrêtez de penser que vous allez vous en rappeler dans 2 heures ou demain, c'est faux, vous allez oublier. Et surtout quand vous allez être sur des phases créatives ou des phases de recherche, vous allez reprendre ces notes et elles vont vous restimuler. Et c'est l'ensemble de ces informations qui vont vous faire sûrement sortir des choses. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Souvent, j'ai une idée de vidéo. Si je la note pas tout de suite ou si je la juge, je l'oublie.
Mais Fabien Olicard, est-ce qu'on est tous des créatifs? Parce que j'entends des gens dire « Ah, mais toi, t'as l'imagination. Moi, j'en ai pas. Je suis plutôt scientifique ou terre à terre. » On est tous des créatifs.
On est tous créatifs.
Moi, je crois que les scientifiques sont des super créatifs.
Exactement.
Parce qu'il faut les inventer,
les solutions. Fait, être créatif, c'est quoi? C'est avoir accès temporairement au futur. C'est génial. On peut voyager dans le temps en étant créatif. Et on l'est tous. L'être humain est créatif de fait. Sinon, il aurait jamais pensé à inventer l'agriculture et à se projeter dans le futur sur les cycles des saisons. Mais par contre, il faut déjà se donner du temps pour ça. Il faut se faire confiance. Il ne faut pas se juger tout de suite. Quelqu'un qui écrit un roman, il ne faut pas croire qu'il écrit un premier jet tout de suite. Il va écrire d'abord tout un premier jet, mais qui a un jet de travail. Et après, il va le juger et après, il va le corriger. Et après, il y a des techniques comme les cartes heuristiques, qu'on appelle les mind maps, qui sont des aides à la créativité. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le brainstorming à plusieurs, mais tout seul. Donc, je vais mettre mon premier mot. Par exemple, je veux écrire quelque chose sur le verre qui est devant moi, quelque chose de créatif. Qu'est-ce que je pourrais écrire dessus? Alors, le verre, ça me fait penser à l'optimisme, tiens, parce qu'il y a l'expression. Alors, je me fais une flèche avec marqué optimisme. Et je vais écrire plein de choses comme ça. Et toutes les idées qui me viennent, après, je vais peut-être les organiser sur des post-it, mélanger tout ça, voir ce qui se passe,
mettre de la
donner
couleur.
Une contrainte, mettre de la couleur. Et après, notre cerveau, il va en ressortir ce qu'il veut.
Allez, d'autres bonnes idées à venir dans la curiosité. Tiens, par exemple, pour chasser le stress, on va appuyer sur un bouton magique. Si, c'est possible.
Vous écoutez RTL.
RTL. J'étais autodestructeur, c'est terminé. Une page se tourne à partir de maintenant. Plus de conneries.
Super.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce que tu penses de cette chemise,
Sherlock?
Je vais la déterrer, ta cellule terroriste souterraine, Mycroft. Mais ramène-moi à Londres d'abord. J'ai besoin de la retrouver, de m'en imprégner, de sentir chaque battement de son cœur.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Votre cerveau est extraordinaire, c'est le titre du livre de notre invité qui nous livre ces astuces de mentalisme, des astuces qui peuvent changer la vie. Certaines sont utilisées d'ailleurs par des personnages de fiction qu'on vient d'entendre, aussi célèbres que Sherlock Holmes ou le Dr House. Je veux parler de l'art de la déduction. C'est quoi ça, l'art de la déduction, Fabien Olicard?
Alors déjà, c'est très drôle d'avoir entendu House juste après Sherlock Holmes, puisque Dr House, son personnage est inspiré de Sherlock, hein, vraiment. Ils ont décidé de créer une série médicale, mais où les suspects seraient des microbes et l'enquêteur serait un médecin. Ils se sont dit qui était le plus grand enquêteur, c'était Sherlock Holmes, et ils lui ont donné ses caractéristiques. C'est vraiment l'histoire de la série. Et donc l'art de la déduction, c'est ce qu'on appelle le cold reading, donc en français la lecture à froid. Donc l'idée, c'est de voir quelqu'un sans rien connaître de lui et de pouvoir dire qui il est, d'où il vient et où il va. C'est un peu, on va dire, la base. Et là, ça demande une très très grande culture générale. Ça demande aussi ce qu'on appelle une baseline, c'est-à-dire de prendre un contexte aussi en compte. Il n'y a pas que la personne, mais peut-être on va voir...
Vous pouvez le faire avec nous, par exemple?
Alors là, non, par exemple. Ouais. Parce que déjà, ça fait longtemps qu'on se parle, donc on a déjà un petit peu perdu ça. Je vous connais, parce que vous êtes des personnages publics, donc je vais être influencé par tout ça. En fait, ça va être un peu facile pour le coup.
Donc si on veut s'entraîner, on fait quoi?
Alors le meilleur moyen, c'est de se poser dans un endroit, un parc, un métro, quelque chose, j'en sais rien, une terrasse de café, et de noter des questions sur les gens qu'on voit passer. Alors, on se pose des questions et on a un petit carnet, on écrit ce qu'on pense. Si on est courageux, on peut après aller aborder la personne pour essayer de discuter et savoir si on avait tort ou raison.
C'est génial comme exercice.
Oui,
Mais surtout, en fait, comment on fait, c'est de l'observation d'abord,
c'est que de l'observation. Alors, on peut se créer un chemin, par exemple. Déjà, regarder les chaussures. On va dire les chaussures. Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont sales? Est-ce qu'elles sont vieilles? Est-ce qu'elles sont usées?
Est-ce qu'elles sont cool? Est-ce qu'elles sont sérieuses?
Est-ce qu'elles sont cool? Est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont chères? Est-ce qu'elles sont pas chères? Ça va, on va dire, le prix va me donner peut-être une information sur le statut social de la personne. Ou suivant, si c'est accompagné d'une tenue un peu élégante pour une soirée, l'heure qu'il est, ça c'est le contexte, c'est quelqu'un qui va à une soirée plus ou moins importante suivant la qualité de la chaussure, etc. Mais si on est dans le métro, en fait, dans ces cas-là, c'est peut-être pas un statut social aussi haut, parce que sinon on ne prendrait pas le métro. Mais voilà, on va se poser comme ça plein de questions, et on va aiguiser son sens de la déduction qui est inné là aussi, mais on ne prête pas assez attention à ça. On fait confiance qu'à son inconscient, pour le coup, qui traite toujours ces informations à notre place. Ben on va essayer de le conscientiser, de se poser les questions et de comprendre pourquoi on croit ça sur cette personne-là. Et on va regarder des pieds à la tête, on va finir par les cheveux.
À quoi ça sert?
À quoi ça sert ? Ça sert à appréhender le monde qui nous entoure, à mieux connaître l'autre, et surtout, ce qui est génial, ça sert à s'intéresser aux autres. Ce qu'on oublie, parce qu'on est toujours perdu dans ces pensées qui nous sont imposées par un mental qui tourne un petit peu trop vite.
Ou dans ces écrans.
Exactement, mais là, on se reconnecte un peu à la réalité, on s'intéresse à l'autre.
Alors comme promis, on va chasser ce stress qui nous colle tous à peu près à la peau. Et pour ça, Fabien Olicard, vous utilisez une technique de PNL. Alors déjà, la PNL, c'est quoi et qui l'a inventée ?
La PNL, alors ça s'appelle, donc c'est pas un groupe de rap qui est à la mode en ce moment, c'est la programmation neurolinguistique qui a été inventée dans les années 80 par Grinder et Bandler, qui étaient un psychologue et un linguiste. Ils ont créé une méthode qui elle-même s'inspire de plein d'autres méthodes. Il y a de l'hypnose ericksonienne, il y a de la psychologie, il y a un peu comme le mentalisme aujourd'hui. C'était un sac sur lequel ils ont mis pas mal de choses et aussi leurs propres théories. Il y a des choses qui étaient vérifiées, des choses qui étaient des hypothèses dedans. Certaines hypothèses ont été d'ailleurs débunkées, comme on dit aujourd'hui. Mais il y a des choses... Hein ?
Infirmées, quoi.
Infirmées, c'est d'accord. Ça. J'utilise trop de mots anglais. Vous avez raison.
Débunkées, ouais. J'avoue que...
Oui, c'est vrai.
Là, je suis sorti de la pièce.
Attends, on frivera quand même à la machine à café demain, Thomas.
J'avais vu, vous êtes reculé à ce moment-là. Et donc, ils ont créé des choses pour s'auto-améliorer, en fait, et prendre un peu plus soin de soi et soin de son mental et être meilleur communicant. Et là-dedans, il y a le bouton de ce qu'on appelle l'ancrage.
Le bouton magique dont on parlait tout à l'heure.
C'est ce que j'appelle le bouton magique, c'est l'ancrage psychologique. On va créer un lien entre une émotion particulière et un stimuli ou des stimulus différents. Par exemple, me toucher l'oreille peut m'apaiser. Pour ça, je vais me détendre complètement, me relaxer. On est vraiment sur de la relaxation pure et dure. Je vais laisser remonter un souvenir où j'étais vraiment très joyeux et très très bien dans ma tête, un beau moment de ma vie. Et tout en me remémorant ce souvenir, mais pas que le souvenir, l'émotion que je ressentais, il faut qu'elle revienne, je vais me toucher l'oreille en même temps. Je vais faire ce geste-là dans ce moment de relaxation. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois, peut-être une fois tous les jours au départ, durant une semaine, puis une fois tous les 15 jours, et puis une fois tous les mois. Et je vais créer comme ça un lien, un bouton magique. À chaque fois, je vais me toucher l'oreille. Ça va faire cette connexion parce que les neurones aiment s'interconnecter et les émotions se trouvent aussi dans l'esprit. Et ça va faire revenir... vous savez, c'est le réflexe de Pavlov. Ouais. La cloche qui sonne et le chien qui salivait parce qu'il savait que c'était l'heure du repas, ouais. C'est pareil.
Vous vous touchez l'oreille pour aller mieux ? Non, mais vraiment, c'est un vrai...
Alors non,
c'est
parce que comme c'est toujours mon exemple, je n'ai rien rentré à...
Parce que vous n'êtes pas du tout stressé, donc je me disais, et donc...
Non, mais j'ai eu la chance d'acquérir avec toute cette curiosité qui m'a fait rencontrer cet univers très tôt dans ma vie, un espèce d'état d'esprit plutôt neutre, joyeux et calme.
Et donc l'idée, c'est vraiment pour synthétiser, on s'est créé ce souvenir de sérénité, de plénitude en quelque
exactement,
sorte.
Exactement, on l'a revécu de l'intérieur.
Un geste associé,
oui,
c'est ça.
Exactement.
N'importe lequel, un geste qui n'est pas extravagant pour que les gens, quand vous le faites éventuellement en public, ne soient pas surpris.
Évitez de sauter sur place en faisant le moulin avec les mains, parce que vous êtes compliqué à reproduire.
Claude François, non.
Cette plénitude, elle revient naturellement.
Elle revient naturellement.
Et donc si vous avez même un stress imprévu, on peut utiliser ce système.
Exactement. Et vous savez, si jamais vous qui écoutez vous doutez de ça, rappelez-vous, les enfants, quand ils vont pas bien, ils mettent leur pouce dans la bouche. C'est pas cette succion-là qui leur fait un effet particulier, c'est que ça leur rappelle ce moment de calme où ils étaient en train de téter, tout simplement. Et bien là, on reproduit ça, mais à l'âge adulte.
Merci beaucoup, merci Fabien Olicard. Votre cerveau est extraordinaire. C'est le titre de votre livre qui est publié chez First. Et puis on espère qu'on va vous revoir sur scène très bientôt avec votre spectacle que vous venez de roder.
À très vite.
Vous écoutez RTL.